d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Asie vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés. Qui croient et qui restent pieux, il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
De Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 15 avril 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran met en garde Israël contre une réponse beaucoup plus sévère si les actes pervers se poursuivent. Les chasseurs israéliens ont frappé le sud du Liban. Et au Tchad, la campagne présidentielle commence. C'était les principaux titres, en voici le journal. Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a mis en garde contre une réponse beaucoup plus dure à toute nouvelle action d'Israël au lendemain des opérations de représailles de la République islamique dans les territoires occupés par le régime sioniste. Dans un communiqué publié dimanche, 14 avril, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré que l'Iran avait mené cette attaque de représailles, baptisée « promesse honnête » parce qu'Israël avait franchi les lignes rouges de l'Iran en attaquant ses locaux diplomatiques à Damas, la capitale syrienne, le 1er avril. Il a déclaré que l'opération était conforme à l'article 2 de la Charte des Nations Unies, qui exhorte tous les membres de l'ONU à s'abstenir de la menace ou du recours à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Si le régime sioniste envisage de poursuivre ses actions ignobles contre l'Iran, par quelque moyen ou méthode que ce soit, ou à n'importe quel niveau, il recevra une réponse 10 fois plus dure, prévient le Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Le président iranien a salué l'attaque de représailles du corps des gardiens de la révolution islamique contre les territoires occupés par Israël. Ebrahim Raisi a salué l'attaque de représailles du CGRI contre les territoires occupés par Israël, soulignant que l'opération hybride avait donné leçon inoubliable au régime occupant. Dans un communiqué publié dimanche, 14 avril, Raisi a réaffirmé que l'attaque au drone et au missile avait ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire de l'autorité iranienne et concrétisé la promesse sincère du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, de punir l'agresseur. Samedi soir, vos enfants dévoués et courageux du CGRI, avec la coopération et la coordination de tous les secteurs de la défense et de la politique du pays, ont tourné une nouvelle page de l'histoire iranienne et ont donné leçon à l'ennemi sioniste, s'est-il félicité en s'adressant à la nation iranienne. Lors d'un entretien téléphonique dimanche avec Joseph Borrell, au représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a estimé que la République islamique n'avait pas d'autre choix que de punir le régime sioniste selon le droit de la légitime défense. Le refus des Nations Unies de condamner dans les moindres termes l'attaque terroriste meurtrière perpétrée le 1er avril dernier par le régime israélien contre les locaux diplomatiques iraniens à Damas ne laissait pas d'autre choix à la République islamique, a-t-il affirmé. le ministre iranien des Affaires étrangères, a indiqué que l'attaque israélienne était une violation flagrante de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et franchissait la ligne rouge de la République islamique. Il a indiqué que l'opération de représailles est une réussite et que pour la République islamique, l'affaire est close. La riposte de l'Iran en cas de contre-attaque du régime sioniste sera immédiate, vaste et maximale, a-t-il averti. Il a par ailleurs souhaité que l'Union européenne présente une initiative pour mettre fin à la guerre génocidaire menée par le régime sioniste contre la bande au Gaza. Pour sa part, le haut représentant de l'Union européenne a fait remarquer que les représailles de l'Iran contre l'attaque israélienne n'étaient pas imprévisibles. Il s'est réjoui du fait que la République islamique considérait l'affaire comme réglée. Joseph Borrell a en outre évoqué des efforts diplomatiques de l'Union pour résoudre la crise à Gaza et mettre fin aux souffrances des Palestiniens. Près de 33 700 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été massacrés dans la guerre de Gaza, déclenchée à la suite de l'opération Torpède Al-Aqsa du Hamas le 7 octobre 2023. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah saluait le courage de l'Iran en menant des frappes contre les territoires occupés de la Palestine en représailles à l'agression meurtrière du 1er avril du régime sioniste contre le consulat d'Iran en Syrie. Le Hezbollah présentait dimanche dans un communiqué ses félicitations à la nation et aux responsables iraniens pour cette attaque unique et sans précédent. Il a salué la décision courageuse et sage de l'Iran. Le mouvement du djihad islamique de la Palestine a pour sa part salué ce dimanche dans un communiqué l'opération de représailles de l'Iran contre Israël. Nous considérons cette réponse comme la réaction naturelle à l'existence de l'entité occupante. Elle est d'autant plus légitime étant donné les crimes, les violations et les assassinats commis par l'entité sioniste qui défie toutes les normes humanitaires et juridiques, lit-on dans le communiqué du djihad islamique de la Palestine. Nous condamnons également toutes les voix qui soutiennent l'entité occupante, en particulier les pays qui se sont érigés en pare-feu pour la défendre, ajoute le mouvement de résistance palestinien, le djihad islamique de la Palestine. Plus tôt dans la journée du dimanche, le mouvement de résistance palestinien Hamas a salué l'opération de représailles sans précédent de l'Iran contre les territoires occupés de la Palestine. L'aviation du régime sioniste a repris ses bombardements sur plusieurs villes du sud du Liban, causant davantage de victimes et de destructions. Le correspondant de la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin a rapporté lundi 15 avril que la ville de Sédérine, dans le sud du Liban, a été prise pour cible par les chasseurs de l'armée israélienne. Pour l'heure, aucun détail n'a filtré sur le nombre de victimes et les éventuels dégâts matériels. La veille dimanche, l'ennemi sioniste a lancé des frappes aériennes contre les positions du Hezbollah dans les profondeurs du territoire libanais. Les forces armées israéliennes ont diffusé des images de leurs avions de combat frappant un site important de fabrication d'armes du Hezbollah dans la région de Nabichit, près de la frontière syrienne. Elles ont également lancé une série de raids violents aux alentours des parcs de Jabal Safi vers la ville de Djibba dans la région d'Irli Maltoufa et la région de Delitoun à la périphérie de Djibba. L'aviation israélienne a également frappé Al-Khiyam, Karfila, Al-Adissa, Houla Wadi al-Salouki, Al-Khiyam, les environs de Demir Mima Adair Mirmas ainsi que le cours du fleuve Litani. Plus tôt dimanche, le Hezbollah libanais a déclaré avoir lancé à deux reprises les barrages de roquettes Katyusha vers le plateau du Golan occupé en réponse aux attaques israéliennes contre des villages et des villes au Liban. Des avions de combat américains et britanniques ont lancé dimanche soir de nouvelles frappes aériennes contre des cibles dans la province de Taïz dans le sud-ouest du Yémen, a rapporté la chaîne de télévision Al-Masira, dirigée par le mouvement de résistance yéménite Ansaral. Les frappes ont visé des zones proches de la mer Rouge, selon des commentaires d'habitants publiés sur les réseaux sociaux. Depuis janvier, la coalition cible les lanceurs de missiles et les installations militaires d'Ansarallah afin de dissuader le groupe d'attaquer les navires israéliens et ceux liés à Israël, transitant par la mer Rouge. Ansarallah du Yémen attaque les cargos liés à Israël depuis novembre de l'année dernière, en signe de solidarité avec les Palestiniens qui sont en proie aux frappes israéliennes sur la bande de Gaza. La course à la présidence du Tchad a officiellement commencé dimanche 14 avril avec 10 candidats en lice pour la plus haute fonction du pays. La campagne durera 3 semaines et aboutira à l'élection du président le 6 mai avec un éventuel second tour le 22 juin. Selon le président de l'Agence nationale de gestion des élections du Tchad, Ahmed Bartiré, dans 21 jours, les candidats présenteront aux Tchadiens leurs projets. Les militants et sympathisants doivent faire preuve de tolérance pendant cette campagne, éviter tout acte susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public. Les principaux candidats sont le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre, Succé Masra. La situation politique et militaire au Tchad s'est détériorée depuis 2021 à la suite du décès de l'ancien président Idriss Déby Itno, le père de Mahamat Idriss Déby Itno. Les autorités ont déclaré que l'élection présidentielle constituait une étape importante pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays d'Afrique centrale. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'Iran frappe l'entité sioniste. L'ère des délits de fuite est révolue. Peu avant minuit dimanche 14 avril, l'Iran a lancé une série de drones suicides et de missiles sur les territoires palestiniens occupés, en réponse à la lâche frappe du régime sioniste contre le consulat iranien à Damas, réalisée le 1er avril 2024. Les responsables du corps des gardiens de la révolution islamique ont confirmé dans un communiqué ce qu'ils ont appelé l'opération « Promesse honnête », fidèle à leur promesse de vengeance définitive contre le régime de l'apartheid. Selon le CGRI, l'opération « Promesse honnête » sera menée en plusieurs étapes jusqu'à ce que les conditions nécessaires soient remplies pour que les représailles deviennent complètes. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, avait promis dans son serment de l'Aïd al-Fitr de punir le régime israélien pour l'erreur commise ayant consisté à avoir ciblé l'un des locaux diplomatiques iraniens. Il a lancé un avertissement similaire un jour après l'attaque du début du mois, affirmant que le régime sioniste sera puni. Depuis lors, le régime sioniste est dans un état de paralysie. Ses colons vivant entre de fausses alertes et des réserves de provisions comme le gaz, la nourriture et l'eau. Les vols ont été annulés et enfin, l'économie du régime a subi un choc considérable alors qu'elle était déjà en difficulté. Il est important de noter que de nombreux pays de la région auraient refusé que leur territoire soit utilisé par les États-Unis comme rampe de lancement d'attaques contre la République islamique d'Iran, ce qui témoigne d'une dynamique régionale changeante. Ces derniers jours, le téléphone du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, n'a cessé de vibrer. Plusieurs responsables occidentaux implorant l'Iran de reculer sur sa position, de faire preuve de retenue. Cependant, la décision d'exercer des représailles est devenue définitive dès l'instant où le missile israélien a été largué sur Damas. Israël a dû payer pour son imprudence. Les États-Unis, principal soutien du régime sioniste, sont terrifiés par une guerre régionale car ils se sont déjà rendus militairement au Yémen, plaidant auprès d'Ansar Allah pour une solution diplomatique. Israël comptait sur le soutien américain pour dissuader les représailles iraniennes. Ils avaient tort. L'axe de la résistance, créé grâce à la planification et à la coordination minutieuse du défunt pilier antiterroriste, le général Rassem Soleimani, démontre pour la première fois un front coordonné contre l'occupation israélienne. Comme l'a dit à maintes reprises le leader de la révolution islamique, l'époque des délits de fuite est révolue. Nous sommes à un tournant de l'histoire où l'entité sioniste se trouve confrontée à la réalité même de son extinction. Le moral du monde islamique est en train d'être restauré, alors que l'Iran agit comme un signe avant-coureur de la stabilité régionale.
Bonjour à tous, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 13 avril 2024. Nous avons consacré le débat de ce samedi au meurtre des membres de la famille d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, le mouvement de la résistance palestinien. Alors on va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts qui nous rejoignent tout de suite après un petit reportage. Restez avec nous, merci.
Ismaïl Haniyeh a réagi au martyre des membres de sa famille, affirmant que leur sang ne ferait que renforcer la détermination des Palestiniens à résister à l'occupation israélienne. Je remercie Dieu pour cet honneur qu'il nous a accordé par le martyre de mes trois fils et mes petits-enfants, et avec cette douleur et ce sang, nous créons un espoir, un avenir et la liberté pour notre peuple, notre cause et notre nation, a déclaré Ismaïl Haniyeh dans un communiqué. Mes fils martyrs, affirme-t-il, ont eu l'honneur de rester avec notre peuple dans la bande de Gaza et n'ont pas quitté la région. Ismaïl Haniyeh a déclaré que les familles de Gaza ont payé un lourd tribut avec le sang de leurs enfants et de leurs proches, évoquant qu'il a perdu près de 60 membres de sa famille au cours des derniers mois lors des agressions sauvages de l'armée israélienne. L'occupation estime qu'en assassinant les fils des dirigeants de la résistance, elle brisera la détermination de notre peuple. Nous disons à l'ennemi que ce sang nous rendra plus déterminés dans nos principes et notre volonté à libérer notre terre. L'ennemi n'atteindra pas ses objectifs. Ce que l'ennemi n'a pas réussi à réaliser par le massacre, la destruction et le génocide ne peut pas être réalisé au cours des négociations non plus. Le chef du bureau politique du Hamas a affirmé que le régime sioniste se trompait s'il pensait qu'il ferait dissuader les Palestiniens en assassinant leurs fils. « Le sang de mes fils est un sacrifice pour le chemin de la libération de Rhodes et de la mosquée Al-Aqsa. Nous n'hésiterons pas et ne reculerons pas. Nous continuerons à avancer sur le chemin de la libération de Rhodes et de la mosquée Al-Aqsa. » Le mouvement du djihad islamique palestinien a condamné ces atrocités, les qualifiant de crimes de guerre et de massacres barbares. Le mouvement Ansar Allah du Yémen a déclaré que de tels sacrifices renforceront la fermeté des Palestiniens contre le régime occupant. Le Hezbollah libanais, le Front populaire de libération de la Palestine et la résistance islamique irakienne ont également présenté leurs condoléances à Haniyeh. L'Iran a également condamné les frappes aériennes israéliennes, le président Ebrahim Raisi affirmant que cela montre le mépris d'Israël pour tous les principes humains et moraux. Selon lui, ce crime révèle encore davantage la nature sauvage et meurtrière du régime. Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que les actions criminelles d'Israël accéléreraient l'effondrement du régime.
Voilà, pour le débat d'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir par Skype Madame Rada Hoballa. Bonjour.
Oui, bonjour à vous ainsi qu'à votre invité. Content de vous avoir invité sur le plateau.
Bienvenue, Madame Hoballa. Je rappelle que vous êtes universitaire géopoliticienne depuis Beyrouth. J'ai également un grand plaisir de recevoir Monsieur Bernard Cournou, analyste politique et militant pacifiste, expert en énergie, ingénieur. Alors, ravi de vous retrouver, Monsieur Cournou.
Bonjour à toutes et à vous, et aussi à, bien sûr, tout le peuple libanais qui souffre beaucoup dans cette période.
Madame Rada Hoballa, on commence tout de suite par vous. Alors, sept membres de la famille d'Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de la résistance palestinien Hamas, ont été assassinés. Trois jeunes fils et quatre petits-enfants. Quelle Alors, comment réagissez-vous à ce meurtre, à cette triste disparition, cette perte d'un chef, d'un leader de la résistance palestinienne? Après que une vidéo est devenue virale, tout le monde a vu cette vidéo tristement célèbre, la nouvelle, Ismaël Haniyeh qui vient d'entendre la nouvelle de ses pertes.
Oui, en effet, j'ai vu la vidéo, mais je ne suis pas tout à fait d'accord de dire tristement, dans le sens où vous avez remarqué dans la vidéo le sourire justement de Ismaël Haniyeh. Ce qui est extraordinaire durant cette tragédie qui est en train de se dessiner à travers le peuple palestinien depuis le début du 7 octobre, c'est que vous avez des exemples de pères, même d'enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, et même ou de mères qui ont perdu, qui assistent à la perte de leurs proches et qui malgré cela ne cessent de répéter « Hasbi Allah wa ni'mal wakil », c'est-à-dire on n'a que Dieu à qui se référer et qui persiste à répéter que nous resterons là. Et je me souviens d'une vidéo d'un jeune adolescent qui venait de perdre sa mère, qui a été retirée des décombres et qui était en fait tout à fait le visage poussiéreux et qui disait « Raza est pour les hommes et Raza ne tombera pas ». Mais c'est ça en fait, telle est l'essence même de ce peuple palestinien qui est devenu un exemple pour le monde entier et qui a étonné tant bien les alliés que les ennemis, que les adversaires, par sa détermination à résister malgré des massacres, voire des crimes de génocide. On n'est plus dans des crimes de guerre. Et là, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a perdu 3 de ses fils, plusieurs petits-enfants. Et tout ce qu'il a dit, c'est qu'il remercie Dieu pour l'honneur qu'il a reçu à accorder. Et il a même déclaré dans une interview à la chaîne satellitaire libanaise Al-Mayadeen, interrogé sur le timing de cet assassinat, c'est-à-dire juste avant au moment où on est en train d'entamer des négociations afin de faire de conclure un accord d'échange de prisonniers. Peut-être c'était une façon de saboter justement cet accord ou de faire plus pression sur justement les négociateurs de Hamas. Et bien pas du tout. Ismaël Haniyeh a bien précisé que je suis avec le peuple palestinien, je partage ses peines. Comme eux, comme le peuple palestinien a perdu beaucoup de ses fils, c'est tout à fait un honneur pour moi que de perdre notamment des membres de ma famille. Il a bien souligné que près de 60 membres de sa famille sont tombés en martyr et c'est le cas de tout le peuple palestinien et donc pour lui il n'y a aucune distinction qui fait partie justement du peuple palestinien et donc il a conclu que cela ne nous poussera pas à abandonner nos conditions. Nous sommes toujours attachés à nos conditions, qui sont des conditions du peuple palestinien, qui garantissent les droits du peuple palestinien, à savoir qu'il n'est pas question de conclure un accord avec l'ennemi israélien que si l'occupation israélienne se retire totalement de Gaza, que si le piège est levé et que si les déplacés palestiniens retournent chez eux, et à ce moment-là, on pourra libérer les prisonniers israéliens. À part cela, il n'y a pas question qu'on conclue un accord. Donc, encore une fois, l'occupation israélienne, à sa tête, Netanyahu a commis non pas une erreur, mais une bêtise, une stupidité stratégique. Et aujourd'hui même, j'étais en train de dire justement ce que les médias israéliens était en train de parler concernant Netanyahu. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, Netanyahu est en train de perdre de plus en plus la satisfaction, que ce soit des médias israéliens, mais aussi d'une partie du peuple israélien. Et là, ils ont carrément qualifié Netanyahu de stupide, voire ils ont dit que ce n'est pas qualité uniquement qu'il jouit, mais en plus il a d'autres qualités, il est faible, il est menteur, c'est un il est anxieux et il est égoïste et il est incapable de prendre des décisions et il risque d'entraîner l'entité sioniste vers sa fin. Donc, telle est la situation actuellement dans l'entité sioniste, alors que l'axe de la résistance est dans une situation qui est plutôt assez forte. Voilà.
Merci beaucoup pour cette ouverture, Madame Opala. Bernard Cournon, alors, à quoi vise, d'après vous, cet acte d'assassinat des membres proches de la famille d'Ismaïl Haniyeh, de ses petits-enfants ?
Oui, vous savez, des articles, y compris en Israël, d'opposants au régime de guerre et d'oppression, on dit qu'il y avait beaucoup de procédures automatiques dans la gestion de cette guerre par l'armée israélienne, qui a voulu, sur ordre du gouvernement de guerre, du cabinet de guerre, qui a voulu tuer le plus possible de combattants sans aucun souci pour les civils, puisque les calculs montraient qu'il pouvait y avoir jusqu'à 100 personnes tuées, et chaque jour on a vu des centaines, souvent 100 personnes qui sont mortes parmi les civils. Le gouvernement israélien, depuis l'occupation, met toutes les données des Palestiniens, de tous, pas seulement les militants, ceux armés, ceux recherchés, mais aussi les civils, toutes les données dans une base de données, où toutes les données de téléphone, d'électricité, les passages au checkpoint, l'état civil, etc., pour pouvoir suivre, et bien sûr les factures de téléphone, les numéros de téléphone, pour pouvoir suivre chaque individu et pouvoir du tout le cibler par des bombes guidées ou par des missiles guidés, tuer les gens qu'ils veulent. Donc, qui a pris cette décision ? Peut-être on le saura un jour, certainement l'armée israélienne peut le savoir, mais cela relève de cette volonté d'exterminer le plus possible de Palestiniens, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militants, armés ou pas, ou civils, sans aucune relation particulière avec la résistance armée. C'est la volonté prouvée, qui a été bien documentée d'ailleurs lors de la plainte de l'Afrique du Sud et de la réponse de l'ordonnance par deux fois de la Cour internationale de justice. Elle a documenté l'intention exprimée par plusieurs ministres et plusieurs cadres de l'armée d'éliminer le plus possible de Palestiniens et de les faire partir, on dit de façon volontaire, entre guillemets, à l'extérieur de la bande de Gaza, c'est-à-dire au-delà du territoire que revendique le sionisme pur et dur autour de Netanyahou et de ses ministres extrémistes. Donc, quelle que soit la décision qui a été prise, elle est condamnable. C'est un crime de guerre. Cela montre une fois de plus qu'avec un téléphone, on court le risque d'être localisé et assassiné, comme l'ont montré plusieurs actes ainsi sur le cheikh Yassine ou d'autres qui ont été tués à partir de ciblage de leur téléphone.
Merci beaucoup, Bernard Cournou. Madame Hopala, d'après ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire que le meurtre des membres de la famille d'Ismaïl Haniyeh, le jour de la fête de Fitr qui marque la fin du Ramadan, est un signe de désespoir d'Israël qui ne sait que faire après tant de massacres des civils dans la bande de Gaza et tant d'actes de crimes contre l'humanité et crimes de guerre?
Oui, alors avant de répondre à votre question, j'ai oublié de rappeler en fait que concernant dans les divers discours du secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, quand il y avait un combattant ou bien un fils de combattant qui tombait en martyr, il ne cessait de répéter que cela fait partie de notre culture, en termes de doctrine. Et donc, que ce soit, je parle en termes d'islam et non pas en termes de confession, c'est-à-dire les chiites et les sunnites. Non, pas du tout. Que ce soit le Hamas, on sait très bien quelle est sa doctrine, et que ce soit le Hezbollah. De toute façon, tomber en martyr est un honneur. Le fait que les chefs de l'axe de la résistance tombent en martyr, c'est un honneur. Le fait que leurs fils tombent en martyr, c'est un honneur. Et c'est tout à fait normal. C'est pas quelque chose qui est considéré comme anormal. Preuve à l'appui, c'est que il faut rappeler que Saïd Hassan Nasrallah avait perdu son fils aîné dans l'une de ces, juste avant l'an 2000, c'est-à-dire avant la libération du Liban Sud, et donc il avait déclaré à ce titre que j'espère que Dieu acceptera cette victime, ou ce sacrifice plutôt. Donc pour, c'est tout à fait normal pour les chefs de la résistance, les chefs de l'arc de la résistance, pour leur cadre, pour leur fils, qu'il y ait un prix à payer, à savoir tomber au martyr. Ça, c'est pour répondre, ça c'était juste un petit rappel. Pour répondre à votre question, est-ce que c'est un acte de désespoir? C'est un acte de désespoir qui s'ajoute à tant d'actes de désespoir, en fait, que le cabinet de guerre tente justement, surtout Netanyahu, parce qu'il est clair qu'il s'est enlisé dans une guerre qui n'arrive pas, il n'arrive pas à trouver la fin de cette guerre. Il tente à tout prix, et je parle en tant qu'observatrice, c'est-à-dire à travers une lecture des médias israéliens, voire des médias arabes, on constate même au niveau des médias occidentaux, Foreign Policy, New York Times, c'est qu'en fait, il est clair pour tout le monde que Netanyahu cherche à tout prix à élargir une guerre pour en fait, et voire entraîner les États-Unis derrière lui, parce qu'il justement, il n'arrive plus à trouver une solution à cette guerre dans laquelle il s'est enlisé, une solution qui lui permette de préserver son pouvoir, de préserver, de rester en pouvoir. Et donc, on voit très bien comment il frappe au Liban. Il a frappé la Beka, c'est-à-dire qu'il a essayé d'élargir, de provoquer le Hezbollah afin de l'entraîner dans une riposte qui puisse devenir un argument pour l'entité sioniste et donc déclencher une guerre contre le Liban. Et tout le monde sait que déclencher une guerre contre le Liban, c'est déclencher une guerre régionale. Il n'a pas réussi. La riposte sur Hezbollah jusqu'à ce jour est une riposte. Ce sont des ripostes qui sont bien calculées, qui se limitent et qui se réduisent à des frappes bien minutieuses contre des bases et des sites militaires tout au long de la frontière libano-palestinienne. Et quand justement l'entité sioniste tente d'élargir justement la dimension de la guerre, et bien le Hezbollah il réplique au Golan contre le Golan syrien. Donc là encore, il n'a pas réussi. C'est également la même chose, il tente de faire il tente de provoquer la communauté internationale et les États-Unis en disant que je menace de rentrer à Rafah, alors que tous les responsables militaires, l'establishment militaire israélien ne cessent de déclarer dans les médias israéliens que si ce sera une erreur stratégique de rentrer à Rafah. Pas seulement parce qu'il y aura justement encore des massacres, mais que cela nuira, et que cela nuira encore plus à l'image, entre guillemets, civilisée, que tente justement, qu'avait tenté pendant des années l'entité sioniste de promouvoir qu'elle était justement un État démocratique dans une région qui est barbare, cela nuira justement encore plus à l'image de l'entité sioniste. Donc, c'est des actes de désespoir à un désespoir. Et le dernier acte de désespoir que tout le monde a déclaré, c'est l'attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas. Donc ça a été l'erreur, la grande stupidité stratégique de la part de l'entité sioniste. Et là, ça fait une semaine l'entité sioniste est complètement paralysée, en sens qu'elle s'est mobilisée à fond, qu'il ne cesse de déclarer et de tenter de deviner quelle sera la riposte iranienne. Là, justement, au moment où je vous parle, selon IRNA, qui est une agence iranienne, il y a un navire MC Aris qui a été en fait pris par les Iraniens dans les eaux iraniennes. Donc, je ne sais pas si telle est justement la riposte iranienne, mais ça vient juste de me sauter devant moi dans les yeux en tant qu'urgent. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Obala. Monsieur Cournon, alors les massacres et les crimes du régime d'occupation d'Israël à Gaza, est-ce que d'après vous ne reflètent pas l'échec stratégique d'Israël, comme vient d'en parler Madame Obala, alors que 6 mois de guerre se sont écoulés sans qu'Israël puisse atteindre ses objectifs déclarés?
disons, il est difficile de dire qu'il y a une défaite ou une victoire. Je pense que le but des Palestiniens est d'avoir un État libre, autonome, souverain, avec une continuité territoriale, avec au minimum la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, plus un territoire de continuité à négocier, et que ceci sera effectivement une conséquence positive du sacrifice immense qu'ont concédé les Palestiniens de Gaza et ceux de Cisjordanie pour que cette question de Palestine soit remise dans le devant de la scène et que les dirigeants qui ont le pouvoir dans le monde, c'est-à-dire en fait le Conseil de sécurité, qui seul peut décréter des mesures de force pour appliquer le droit international qui est violé depuis 56 ans par l'État israélien en occupant ces territoires après la guerre de 67. Donc ceci sera peut-être une victoire pour les Palestiniens et comme l'a dit d'ailleurs le président Macron, c'est cette situation positive après un État palestinien côte à côte qui garantira la sécurité de l'État d'Israël. Donc ce sera aussi dans l'intérêt d'Israël après ces décennies d'errement de politique, d'occupation militaire, de colonisation, d'assassinat qui a fini par dégrader l'image d'Israël, donc dégrader tous ses soutiens dans le monde. Maintenant, à peu près 140 nations dans le monde à l'Assemblée générale des Nations Unies sont prêtes à voter positivement pour la création de l'État palestinien et qu'il soit reconnu comme un membre plein comme membre des Nations Unies. Ceci nécessite un vote qui sera proposé, je pense, le 18 février, dans quelques jours, au Conseil de sécurité. Et j'espère que les États-Unis ne feront pas un veto, car sinon leur image aussi sera complètement dégradée. Et il est probable aussi que des actions en justice continueront à être exercées contre les États-Unis s'ils continuent à s'opposer à la création de l'État de Palestine comme membre plein des Nations Unies et en pleine application du droit international tel qu'il a été voté depuis des décennies.
Merci beaucoup. Dernière question, peut-être avec vous, Madame Hopalla. Alors, cet acte d'assassinat visait certainement à ébranler la détermination de la résistance palestinienne, ce qui est incroyable et d'ailleurs admirable auprès de la population palestinienne dans la bande de Gaza, c'est leur soutien à la résistance palestinienne malgré tant de martyrs qui ont donné depuis le 7 octobre.
Je n'ai pas compris votre question. Vous voulez savoir quoi? Est-ce que...
Bon, s'agissant du soutien continu de la population martyre de la bande de Gaza. Okay.
Oui, alors, mais avant, justement, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce peuple palestinien a enduré, comme l'a bien appelé votre invité, plus de 56 ans de massacres, d'assassinats, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à chaque fois qu'on assassine plus des chefs ou des cadres de la résistance, que ce soit palestinienne, que ce soit au Liban, comme ça a été le cas, le secrétaire général du Hezbollah dans les années 90, eh ben cela ne fait que renforcer la détermination et la volonté des commandants de cet axe de résistance. Il y a toujours un remplaçant, c'est ça qui est extraordinaire. Comme si vous vous rappelez, quand on a assassiné le commandant en chef des gardes de la révolution islamique des brigades Al-Quds, la branche extérieure des gardes de la révolution islamique, Qassem Soleimani, et bien aujourd'hui, j'étais en train de lire des articles, on affirmait que justement l'assassinat de Qassem Soleimani s'est avéré beaucoup plus dangereux que quand il était en vie. Donc, à chaque fois qu'on essaie. C'est dans l'histoire, c'est le processus historique, c'est une règle historique. Plus on assassine un peuple qui a le droit à une terre ou qui est occupé, et ben plus on renforce sa détermination et sa volonté. Certes, le prix est fort élevé, mais cela n'empêche pas qu'en fin de compte, l'histoire, telle est la règle de l'histoire, et ben ce peuple aura droit à récupérer sa terre.
Merci beaucoup, Madame Abala. Je rappelle que vous êtes analyste politique et experte en géopolitique. Monsieur Cournou, vous voulez ajouter peut-être quelque chose?
Oui, tout à fait. Nous sommes en face d'une résistance à une occupation Et en France, pendant l'occupation nazie de la France, il y a eu une résistance. Et le poète disait « Celui qui croit en Dieu et celui qui ne croyait pas étaient tous les deux actifs dans la résistance. » C'est-à-dire tout. Et le chef français de la résistance a été torturé à la fin par les Allemands, il est mort. Mais 70 ans après, on honore encore son souvenir.
Merci, Monsieur Cornou, Bernard Cornou, analyste politique et spécialiste au Moyen-Orient. Merci à vous, amis téléspectateurs et amis auditeurs. Au revoir, à la prochaine.
Voyage dans l'univers mystique de Mont-Lavé. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. L'âne et le renard. La suite. La dernière fois, nous vous avons raconté que le renard a tout fait pour tromper l'âne et l'entraîner vers la forêt et chez le lion. Vous avez connu également que l'âne est parvenu à se sauver et se réfugier dans la montagne. Le lion a donc demandé au renard d'utiliser encore une fois son intelligence pour ramener l'âne chez lui. Et maintenant, la suite de ce conte. Le renard se remit en chemin en priant. « Oh mon Dieu, aide-moi. Fais que l'ignorance obscurcisse l'intelligence de cet âne. Il doit être présentement en train de se repentir et de se jurer de ne plus se laisser abuser par les promesses d'autrui. Aide-moi afin que je puisse le tromper encore une fois, car je suis ennemi de toute intelligence et traître à tout serment. » Quand il parvint auprès de l'âne, celui-ci lui dit « Laisse-moi en paix, ô inhumain. Que t'ai-je fait pour que tu me traînes ainsi devant un dragon? Pourquoi as-tu attenté à ma vie? Qu'est-ce qui me veut cette animosité? Certainement, ta nature perverse est la cause de tout cela. Tu es comme le scorpion qui pique ceux qui ne lui ont rien fait, ou comme le diable qui ne nuit sans raison quelconque. Ce que tu as vu, fit le renard, n'était qu'une apparence, une apparition créée par les artifices de la magie. Tu penses bien que si de tels sortilèges n'existaient pas, tous les affamés se seraient donné rendez-vous en ce lieu. Si cette illusion n'existait pas, la contrée deviendrait le refuge des éléphants et rien ne resterait debout. Je voulais t'en avertir afin de t'éviter cette frayeur, mais ma pitié pour toi et l'envie que j'avais de te porter secours. Tout cela m'a ôté cette préoccupation de la tête. Sinon, sois sûr que je t'en aurais averti. Ô ennemi, dit l'âne, disparais de ma vie. Je ne veux plus te voir. Je le comprends maintenant. Dès le début, tu n'en voulais qu'à ma vie. Après que j'ai vu le visage d'Azraël, tu as encore le front d'essayer de m'abuser. Je suis la honte de l'espèce des ânes. Je te l'accorde. Je suis même, si tu veux, le plus vil des animaux. Mais je vis cependant. Un enfant qui aurait vécu ce que je viens de vivre serait devenu un vieillard. Je promets devant Dieu que jamais plus je ne croirai aux mensonges des imposteurs. » Le renard répliqua. « La lie n'existe pas dans ce qui est pur, mais le tout existe dans l'imagination. Tes soupçons sont injustifiés. Crois-moi, il n'y a aucun mensonge dans mes paroles, aucune traîtrise dans mes intentions. Pourquoi affliger ton ami par de tels soupçons? Même si les apparences sont contre eux, ne désespère pas tes frères. La suspicion éloigne les amis les uns des autres. Je te le répète, ce lion n'était qu'une illusion. Le doute et la peur ne sont que des obstacles sur ton chemin. » L'âne tenta de résister aux mensonges du renard, mais le manque de nourriture avait épuisé sa patience et obscurci son entendement. Certes, l'appât du pain a coûté bien des vies et transpercé beaucoup de gorges. Et l'âne était prisonnier de sa faim. Il se disait, « Si la mort est au bout du chemin, cela reste malgré tout un chemin, et je serai au moins sauvé de cette faim qui me tenaille. Si la vie consiste en cette souffrance, peut-être vaut-il mieux mourir. » Il avait bien eu un sursaut d'intelligence, mais en fin de compte, son ânerie reprit le dessus. Le renard l'emmena donc auprès du lion, et celui-ci le dévora. Après ce combat, le lion eut soif et partit à la rivière pour se désaltérer. Tandis qu'il était absent, le renard mangea le foie et le cœur de l'âne. À son retour, voyant que l'âne n'avait plus ni cœur ni foie, le lion demanda au renard « Où sont passés son cœur et son foie? Je ne connais pas de créature qui soit dépourvue de ces deux organes. » Le renard répliqua « Au lion, s'il avait une foie et un cœur, serait-il revenu ici la deuxième fois ?» La perle du sultan. Un jour, le sultan était dans son boudoir entouré de sa cour. Il sortit d'un coffret une perle précieuse et la mit dans la main de son vizir en lui demandant « Quelle est sa valeur ?»« 100 sacs d'or, » répondit le vizir. « Écrase-la, » ordonna le sultan. « Commencerai-je, » dit le vizir, « cette perle est le fleuron de votre trésor. » « Je suis content de ta réponse, » dit le sultan, et lui fit des cadeaux et lui rendit honneur. Un peu après, alors que d'autres sujets de conversation avaient été épuisés, le sultan donna cette même perle à son chambellan en lui disant « Quelle est sa valeur aux yeux de ceux qu'habite le désir ?»« Cette perle veut la moitié de votre royaume, » dit le chambellan, « que Dieu la protège de tout péril. » « Écrase-la, » ordonna le sultan. « Oh, mon sultan, » répondit le chambellan, « ce serait un grand dommage, voyez cette lumière et cette beauté. L'écraser, ce serait porter atteinte au trésor de mon sultan. » Le sultan fut satisfait de cette réponse et le combla de cadeaux en louant sa sagesse. Puis plusieurs beys ou émirs subirent la même épreuve, et par imitation, tous donnèrent la même réponse, afin de connaître la faveur du sultan. Finalement, le sultan posa la même question à Ayaz. « Que veut cette perle ?»« Certainement, elle veut davantage qu'on ne le dit, » répondit Ayaz. « Écrase-la, » ordonna le sultan. Or Ayaz, prévenu en rêve de ceci, avait 2 pierres dans sa poche. Il s'en saisit et écrasa la perle sans hésiter. Quand Ayaz eut écrasé la perle, les courtisans dirent « Celui qui a écrasé une perle si lumineuse ne peut être qu'un blasphémateur. »« Quel est le plus précieux ?» demanda Ayaz. « L'ordre du sultan ou la perle ?»« Vous ?» « Vous êtes intéressé par la perle et non par le sultan. Moi, je ne suis pas attiré par les pierres, comme le sont les infidèles. Seul le sultan me préoccupe. L'âme qui est prisonnière d'une pierre colorée ignore l'ordre du sultan. » À ces mots, les beys, les émirs, le chambellan et le vizir inclinèrent la tête en se lamentant. Le sultan fit signe au bourreau. « Venge-moi de ces misérables, dit-il, car ils ont préféré une pierre à mes ordres. » Au sultan, tu es celui auprès de qui les généreux trouvent la source de leur générosité. Les plus généreux ont honte devant la munificence de tes faveurs. L'insolence et l'ignorance des blasphémateurs proviennent de l'abondance inépuisable de ta clémence. Au moment du pillage, le peuple veille pour protéger ses biens, puisque la crainte de perdre ses biens l'empêche de dormir. Comment pourrait-il dormir sans crainte de perdre la vie? L'oubli naît de l'inadvertance et du ramollissement. Laisse-leur la vie, car ils ont vu ton visage et ne supporteront pas d'en être séparés. Même si la mort est amère, elle ne peut l'être autant que la séparation. Il est agréable de mourir avec l'espoir de te rejoindre, mais il est amer de vivre dans les tourments de la séparation. En enfer, les infidèles se disent : nous ne serions pas aussi tristes si nous avions honoré d'un seul regard. Afin que ceux qui sont avilis par l'insolence puissent être lavés par le frat de ta miséricorde, laisse s'écouler le flot de ton pardon. à qui Téhéran l'avoue.